Mais en première partie,
oui.
On va rester poli avec, avec René Dupuis.
Oui.
Comment allez-vous?
Je vais très bien, merci. Bonjour à vous deux.
Quoi, Madame Dupuis?
C'est très impressionnant quand on regarde votre parcours en livre d'abord, le livre « La question des Premières Nations au Canada », qui est un livre de base, si on veut comprendre toute l'histoire de ce qui s'est passé, et ce livre nouveau, votre biographie, que j'ai adoré. C'est vraiment très agréable à lire. Ben, bravo.
Merci beaucoup. C'est bien que ça vous ait intéressé.
Ah oui, tout à fait.
On peut commencer un peu pour... on a décidé de faire une réédition de la question indienne pour l'appeler maintenant la question des Premières Nations. Est-ce que c'était l'idée du fait que vous alliez sortir une biographie, de sortir le livre « La question des Premières Nations au Québec », de la rééditer en même temps pour un peu compléter la biographie?
En fait, les deux projets n'étaient pas reliés.
Okay.
Dans le livre « Ce chemin sous mes pas », j'avais décidé de répondre à une question de ma fille aînée, à savoir pourquoi est-ce qu'au lieu d'écrire un livre sur le Sénat, ce qui lui semblait pas une bonne idée du tout, j'écrirais pas plutôt un livre qui présenterait ce que j'ai essayé de faire depuis une cinquantaine d'années pour qu'elle puisse le raconter à leur fille à elle, donc mes petites filles, qui sont trop jeunes pour le lire. Au moment où j'écrivais ce livre-là, donc j'avais commencé à l'été 2019, au moment où j'écrivais ce livre-là, mon éditeur m'a proposé de mettre à jour un livre qui était paru donc en 1991, dans la foulée de la crise d'Oka.
Oui.
Et moi, j'ai pensé que c'était une bonne idée, sans réaliser le travail que ça représenterait, parce qu'il y a une trentaine d'années donc qui ont passé depuis ce temps-là.
Oui, ben c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Si on regarde un peu la table des matières, donc on y va avec les jalons historiques. Bon, ça, j'imagine que c'est semblable. Il n'y a pas eu peut-être moins de mise à jour. Mais les Premières Nations aujourd'hui, puis les revendications, oui, bien qu'on parle des conférences constitutionnelles du tribunal Russell, on vient aussi parler de la question de la déclaration des Nations Unies, les pensionnats indiens et les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées, donc les commissions qui ont eu un rapport avec ça.
En fait, on s'aperçoit que depuis, si vous voulez, le rapatriement de la Constitution en 1982, qui avait provoqué des changements à cette Constitution-là, dans laquelle on a reconnu des droits particuliers et qu'on a constitutionnalisé ces droits particuliers,
oui,
à trois catégories de peuples autochtones, on était dans une impasse politique. À la suite de cette reconnaissance constitutionnelle, on n'a pas réussi dans les années 80 et début des années 90 à préciser vraiment quelle était la portée de ces droits-là, qui étaient ces peuples autochtones qui pouvaient se prévaloir de ces droits-là. Et donc, il y a eu une série de conférences constitutionnelles qui ont laissé le tout, je dirais, en suspens à partir du milieu des années 90. Et on a observé à partir de là une activité intense devant les tribunaux, parce que si c'est bloqué sur le plan politique, et dans une société démocratique comme la nôtre, il reste le recours aux tribunaux. Et c'est vrai qu'à la fois les gouvernements ont continué de vouloir appliquer leurs lois sans tenir compte des nouveaux droits reconnus, donc ça a été contesté par les Premières Nations et d'autres peuples autochtones, mais aussi les Premières Nations se sont décidé de recourir aux tribunaux pour essayer de forcer cette reconnaissance et forcer le fait que c'était reconnu dans la Constitution, mais que sur le plan concret, dans la vie des gens, on n'arrivait pas à s'entendre sur ce qui devait être changé.
Est-ce qu'on peut dire qu'on est encore dans une impasse, dans la mesure où, oui, il y a eu une certaine définition de la part des tribunaux de qu'est-ce qui est le titre ancestral et ainsi de suite, mais si on regarde quand même depuis tout ce temps-là, les tribunaux ont reconnu seulement qu'une nation, ont reconnu seulement qu'une nation avec son titre ancestral, c'est les Tsikoltines.
Mais en fait, je termine mon livre en disant que la question continue de se poser de façon peut-être un peu différente, légèrement différente qu'elle se posait dans les années 90, mais ce qui est différent d'une manière radicale, à mon avis, c'est à la fois le travail qu'on a décidé de mener sur le en termes de vérité et de réconciliation. Quand on a créé la commission Vérité et réconciliation, à la suite d'ailleurs d'une poursuite d'un recours collectif contre les gouvernements et les églises, on a inscrit notre travail dans une espèce d'ensemble international qui est donc toutes ces formules de commission Vérité et réconciliation. On a comme sorti ça de chez nous, puis on l'a inséré dans un grand mouvement international quand il y a des droits fondamentaux qui ont été violés de façon importante. C'est un mécanisme de qu'on appelle de justice transitionnelle pour essayer d'arriver à d'abord faire éclater la vérité au grand jour dans sa véritable dimension. Donc la colonisation, les pensionnats, les sévices, et pour arriver ultimement à la réconciliation. Donc ça, c'est le premier volet de ce qui m'apparaît avoir changé radicalement. Mais le deuxième volet, c'est vraiment que tout ce qu'on discutait dans les années 70 sur la reconnaissance des droits des peuples autochtones sur le plan international a abouti au début des années 2000 à une déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Et le Parlement fédéral a décidé d'adopter une loi qui met en œuvre dans le régime, et qui vise à mettre en œuvre dans le régime canadien, cette déclaration-là. Alors, ça veut dire qu'il y a tout un autre pan des discussions qu'on doit avoir qui se situe maintenant dans le registre à la fois de la vérité et réconciliation et à la fois des droits particuliers reconnus sur le plan international. Et ça, c'est deux mondes qui s'ouvrent, c'est beaucoup de travail qui reste à faire. Je dirais que c'est encourageant pour les plus jeunes parce qu'ils auront beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire.
Oui, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a quand même des choses qui avancent, c'est vrai. On peut quand même se dire qu'avec cette loi sur la déclaration des droits des peuples autochtones, il y a eu d'autres lois qui visent à mettre en œuvre cette déclaration-là. Je pense à la loi sur les langues autochtones. Puis je pense plus particulièrement à la loi sur les familles Premières Nations, Inuit et Métis, qu'on appelle communément la C-92. Qui oui. Permet qui reconnaît, dans le fond, qui fait un exercice déclaratoire d'un droit ancestral à l'autonomie gouvernementale, mais très restreint en matière de réglementation de la protection de la jeunesse.
Mais ce sont deux exemples de lois qui viennent réorienter de façon radicale la gouvernance des Premières Nations. Donc, en matière de loi, en matière de services à la communauté, de services sociaux, de services à l'enfance. Et c'est tout ça le travail qui reste à faire. Ce qu'on sait maintenant, et ce que je constate, c'est que chez les générations plus jeunes, qui ont été très exposées au travail de la Commission Vérité et Réconciliation, aux découvertes qu'on a fait des tombes anonymes près des pensionnats autochtones, au travail de la Déclaration des Nations Unies, il y a moins d'agressivité, il y a un malaise, mais il y a un malaise qui sent le besoin de comprendre et qui est prêt à agir. Et ça, je pense que ça crée des conditions nouvelles et différentes qui vont nous permettre de continuer à revoir l'ensemble du domaine. C'est toute la question de la gouvernance de la vie des Premières Nations, entre autres, et des autres peuples autochtones qui est en jeu ici. Et je pense que il s'agit de trouver des façons de faire qui vont faire que tout ça va se co-développer, si vous voulez, plutôt que de s'imposer par des gouvernements de façon unilatérale et sans respecter les droits des peuples autochtones.
Bien que je trouve que le gouvernement libéral ait peut-être pas répondu à toutes les promesses qu'il avait faites en matière autochtone, que ce soit pour l'eau ou d'autres éléments, c'est quand même un autre monde comparé au gouvernement Harper. Mais dans cette voie vers... j'aime tout le temps le rappeler, là, quand on parle de vérité et réconciliation, on oublie le bout guérison. Quand on a commencé à parler aux survivants des pensionnats, on parlait de vérité, guérison et réconciliation. Dans ce bout de guérison pour s'en aller vers une meilleure... Un meilleur partage, il y a un gros nœud. En tout cas, si on regarde au Québec, c'est les gouvernements des provinces. On le voit avec le gouvernement Legault qui refuse de mettre en application la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones et qui conteste la loi C-92. Bien qu'on aille des avancées au point de vue radical, comme vous l'avez dit, au point de vue de la gouvernance, le nœud du problème, c'est souvent le territoire qu'on veut pas partager.
C'est non seulement le territoire qu'on veut pas partager, mais c'est aussi le pouvoir qu'on veut pas partager. Et je pense que la structure, et ce n'est pas seulement au Québec qu'on le voit, on le voit cette semaine encore en Saskatchewan. On le voit par rapport à la propriété des ressources naturelles. On voit bien qu'il y a une résistance dans différentes provinces à changer radicalement leur façon d'approcher. C'est encore vu tout ce qui est matière de gouvernance des peuples autochtones est encore vu comme le fédéral essaye d'enlever quelque chose aux provinces de ses attributions constitutionnelles. Alors, il y a un déblocage nécessaire. Je ne sais pas ce que ça va prendre pour réussir ce déblocage-là. C'est pour ça que je pense que la nouvelle génération est moins, comment dire, donc, est moins agressive et moins agressée par ce genre de perspective où il faut se remettre en question radicalement. Il y a une question aussi de le domaine est connu et on sait que ça fonctionne comme ça et juridiquement il y a une stabilité au pays parce que on sait exactement de quoi relève du fédéral ou des provinces et là tout à coup on veut remettre ça en jeu et on veut donner une priorité pour ce qui est des peuples autochtones à leur gouvernance. Ça crée en tout cas une crainte d'instabilité, il faut pas le nier. Mais je suis d'avis et je persiste à penser que les questions fondamentales, vous avez parlé d'accès à l'eau potable, ça m'apparaît un élément qui est toujours inacceptable quand on parle d'accès à l'eau potable pour les communautés des peuples autochtones au Canada. On semble vivre très facilement avec le fait que la plupart des communautés n'ont pas accès à de l'eau potable, et il ne suffira pas d'attendre des poursuites, de faire des règlements hors cours, de donner des compensations à des gens pour leur donner un système qui se tient et qui leur assure une santé minimale, parce que l'eau potable, c'est ça. Donc, il y aura beaucoup de travail contre une certaine résistance qui est claire. Je la compare à la résistance par rapport aux droits de la personne en général.
Oui.
On est les droits de la personne au Québec, c'est 1975, la Charte des droits. Au fédéral, 1978, la Loi canadienne sur les droits de la personne. 82, la Charte canadienne, donc la Charte constitutionnelle. Moi, on me parle de la nécessité de faire l'éducation. Je suis passée à autre chose et je l'appelle le besoin de faire céder cette résistance. On n'a plus d'ignorance par rapport à ces questions-là, mais on fait face à une résistance à changer les lois, à changer les pratiques, à changer les systèmes dans ce domaine-là.
Puis comme on peut le voir dans votre livre, c'est pas d'hier que cette résistance-là existe.
Bien, cette résistance-là, je pense que la lutte pour l'égalité, au cours de l'histoire, si on regarde le temps long de l'histoire, la lutte pour l'égalité entre les êtres humains, elle date de plusieurs siècles, de plusieurs millénaires. Bon. Mais c'est un travail qui est incessant, c'est un travail où il ne faut pas prendre de choses pour acquises, mais je suis d'avis que c'est un travail auquel les possibilités qu'on a maintenant et les exigences qu'on a maintenant. Nous sommes des citoyens plus éduqués, plus instruits que ceux qui l'étaient il y a quelques siècles Et on a des exigences en matière démocratique qui font qu'il y a des choses qu'on n'acceptera plus de nos gouvernements, y compris qu'ils nient la discrimination systémique. Je parle de discrimination systémique parce que c'est inscrit dans nos lois depuis des décennies.
Oui.
On n'a pas le droit de faire de la discrimination systémique. On peut s'obstiner sur le racisme systémique et sur le concept du racisme systémique, mais il y a une chose qui est claire ici, c'est que la discrimination systémique, elle est interdite de par nos lois depuis 1975 au Québec, depuis, entre autres, confirmée par la Cour suprême en 1986. Donc, ce n'est pas de l'ignorance, c'est de la résistance.
Madame l'honorable sénatrice Dupuis, on va prendre une petite pause musicale. On vous revient après, on va parler de ce chemin sous mes pas.
Avec nous, l'honorable sénatrice Renée Dupuis. L'honorable, des fois, ça vient avec le titre, hein? Mais dans votre cas, Madame Dupuis, je me permets de vous appeler Madame, ça vient avec votre parcours, parce que ce que vous avez fait est tellement honorable, je ne vous laisse pas me contredire là-dessus. Je vais simplement lire le premier paragraphe que votre éditeur dit de votre livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Ce chemin sous mes pas ». Habituellement, les éditeurs, ils beurrent un peu épais, mais là, c'est tout à fait la réalité. Hein? Le parcours exceptionnel d'une femme qui a contribué de manière remarquable à l'avancement des droits des Autochtones et des droits de la personne au Canada. L'exemple inspirant d'une personne qui n'a jamais accepté de sacrifier ni sa vie privée, ni sa vie professionnelle. Une réflexion audacieuse sur la place du droit dans la vie quotidienne de tous les citoyens. J'ai lu ce livre-là avec appétit. C'est extraordinaire comme témoignage et la façon que vous avez eue de faire vos chapitres à partir de remarques de vos enfants, de votre fille en particulier, donne vraiment un aspect de votre vie, un aspect de vos relations tout à fait humaines, ordinaires, qui est tout à fait exemplaire. Bravo pour ce livre. Et ma première question est la suivante, c'est un peu long à commenter, mais ma première question, c'est vous avez été honoré de plusieurs façons, par le côté juridique, le côté politique, bien sûr, vous avez eu des prix, doctorat honorifique. Est-ce que toutes ces reconnaissances vous ont vraiment aidé, vraiment inspiré, ou vous avez pris ça avec une certaine distance?
Je vous dirais d'abord que ce que vous avez appelé, d'abord merci de vos propos sur le travail que j'essaye de faire depuis une cinquantaine d'années. C'est venu comme une surprise à chaque fois dans ma vie. Si on m'avait dit d'ailleurs quand j'ai commencé ou au cours des premières années que ça viendrait, je ne l'aurais pas cru. Franchement, je ne l'aurais pas cru. J'avais réalisé dès le départ que je m'engageais dans une voie qui allait être difficile. Ce fut difficile d'ailleurs, mais je l'ai écrit ce livre-là aussi pour encourager des personnes plus jeunes. J'ai beaucoup de demandes d'étudiants et d'étudiantes à propos des questions autochtones, mais pas seulement, qui me disent que ça les encourage de voir quelqu'un comme moi qui a choisi un parcours qui n'était pas habituel, une façon autre de pratiquer le droit au Québec dans les années 70 et suivantes. Ça les encourage parce que, et c'est pour ça que ce livre-là m'intéressait, parce que si ça peut juste convaincre quelqu'un qui va à contre-courant de persister dans les intuitions profondes que cette personne-là a d'elle-même, ben je trouve que c'est bien.
Dans les années 70, au moment où j'en faisais partie, à l'époque, c'était mon âge, on se déguisait en Indien, on faisait semblant d'avoir une pureté indienne avec la nature. Vous avez choisi de défendre les Indiens, et vous n'êtes pas autochtone d'origine, et vous avez fait un choix. Ce choix-là était étonnant pour l'époque.
Ce choix-là était étonnant, mais dans mon esprit, au moment où j'ai cherché à faire un stage en droit qui ne serait pas un stage conventionnel et que j'ai eu la possibilité donc de poser ma candidature pour un stage avec des avocats qui travaillaient avec une association qui s'appelait l'Association des Indiens du Québec, j'ai réalisé que mon intérêt pour les droits fondamentaux des personnes et des peuples allait trouver un terrain très concret d'application. Ici, à côté de chez nous, en ouvrant la porte, en sortant de chez nous. Et c'est ça qui... Alors, je n'ai jamais essayé de le faire autrement qu'étant la personne que je suis, c'est-à-dire une non-autochtone, mais il m'est apparu qu'il y avait là un déni de droit, la violation de droit qui était tellement flagrant, entre autres, dans la loi sur l'extension des frontières du Québec de 1912, où on parlait des droits des habitants sauvages. J'avais réussi à faire tout un parcours scolaire, universitaire, professionnel, sans même avoir été exposée à ça. J'ai donc compris qu'il y avait là un terrain de travail qui était exactement dans le sens de ce que je souhaitais faire. Et donc, la pratique du droit, je ne voulais pas enseigner les droits, je ne voulais pas parler des droits en théorie, je voulais que ça s'incarne dans la réalité. C'est ça qui m'a amenée à travailler avec des Premières Nations.
Et pas n'importe comment, parce que cette femme, Atikamekw, qui a dit, je la cite, « Vous n'êtes pas comme les anthropologues, vous ne mettez pas vos vieux jeans et vos vieilles espadrilles pour venir travailler dans nos communautés. » Qu'est-ce qu'elle voulait dire exactement?
Écoutez, il faudrait lui demander à elle.
Oui.
Mais ce que j'ai compris, c'est que... ce qui m'a frappée, parce que moi, c'est pas une phrase que j'ai sollicitée, elle m'a été servie comme ça par une personne avec qui je m'entendais bien par ailleurs. J'avais de très bonnes relations de travail avec elle. Mais ça m'a fait comprendre que, dans le fond, ça a confirmé mon choix de ne pas essayer d'être autre que ce que j'étais avec les Premières Nations, dans mes relations avec eux. Donc, j'essayais pas de me déguiser. J'essayais pas d'être quelqu'un d'autre. Je pense que, je leur disais, moi, j'ai une expertise technique, j'ai une compétence technique, je suis une avocate. Je peux travailler avec vous pour obtenir le respect de vos droits, pour travailler à faire respecter vos droits, les faire reconnaître. Mais c'est votre cause. Ça sera à vous de la défendre. Ça sera à vous de déterminer ce que vous voulez qu'advienne pour l'avenir de vos enfants.
Je voudrais que vous me racontiez un peu cette remarque que votre fille aînée vous a fait un jour dans un marché public. « Maman, pourquoi les gens sont toujours fâchés contre toi? »
Ben, écoutez, les enfants, en général, sont sensibles au ton des conversations, des discussions, des engueulades, de toutes les sortes de relations. Les enfants sont sensibles au ton et on se promène au détour d'une... On se promène dans une épicerie, on t'arrive au bout d'une allée et tout à coup, quelqu'un t'interpelle en disant « Qu'est-ce qui nous prépare tes Indiens? » Ça, c'est dans les périodes de calme où il n'y a pas d'enjeux sociaux publics qui mettent en scène des Premières Nations.
Madame Dupuis, je vais vous dire « Miigwech, Oléani ». Moi, j'ai beaucoup apprécié votre livre en tant que récemment étudiant en droit et maintenant avocat en droit des peuples autochtones. J'ai retrouvé quand même des combats qui continuent aujourd'hui. On invite nos auditeurs à le lire.
C'est exemplaire comme livre. Merci infiniment, madame.
Je vous remercie, Alexis Wawa Noloat et Robert Blondin, de m'avoir reçu aujourd'hui.
Au plaisir.
Au plaisir.
Au revoir.